Le journal Le Monde a écrit que c'était la plus belle rétrospective de l'année. L'exposition consacrée par le Grand Palais à Paris à un des pionniers de l'abstraction, le peintre tchèque František Kupka, est désormais également à voir à Prague et ce au manège Wallenstein jusqu'au 20 janvier prochain. Cet événement est le fruit d'une collaboration fructueuse, notamment entre la Galerie nationale de Prague et le Centre Pompidou à Paris. Pour Radio Prague, l'historienne de l'art tchèque Markéta Teinhardt et une des commissaires de l'exposition, Brigitte Léal, sont revenues sur ce grand projet. La rubrique de cette semaine a été préparée par Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Écoutez, il y avait déjà une espèce de logique de partenariat grâce à nos deux collections, la collection Kupka du Centre Pompidou, qui est extrêmement importante puisqu'elle est née en fait grâce aux donations de Kupka. Donc c'est vraiment une collection où tous les aspects de la création de Kupka sont représentés. Et l'autre collection très importante en Europe, bien sûr, c'est celle de la Národní galerie de Prague. Donc il était logique que nous travaillions ensemble pour pouvoir monter une rétrospective de cette ampleur. Il n'empêche que dans les deux cas, et surtout à Paris, il y avait aussi des prêts exceptionnels d'autres institutions comme le Musée d'Art Moderne de New York, enfin les grandes collections américaines et européennes qui ont accepté de nous prêter des chefs-d'œuvre. Donc c'est ainsi que tout a commencé. C'est une idée de rendre hommage à Kupka avec le noyau central des plus belles œuvres conservées aussi bien à Paris qu'à Prague.
Ça faisait longtemps hein, qu'une rétrospective n'avait pas été organisée. Ici, par exemple, ça faisait une trentaine d'années.
Non, à Paris, en tout cas, c'était depuis 1989. Donc, mais vraiment, une rétrospective d'une telle richesse, effectivement, il n'y en avait pas eu depuis longtemps. D'autant qu'à Paris, notamment, on avait aussi la présence d'archives, de documentation qui n'avaient jamais été montrées. Et donc, c'était à la fois une exposition qui pouvait satisfaire par la beauté des œuvres, un public assez large, mais aussi un public de chercheurs. Et ça nous a permis d'avancer dans la connaissance de l'œuvre de Kupka.
Alors justement, puisque vous parlez de la connaissance de l'œuvre de Kupka, j'imagine qu'il n'est pas forcément connu comme ça au premier abord de tous les Français, même peut-être amateurs d'art. Quelles ont été un peu les réactions des gens en découvrant, peut-être, ou en redécouvrant, on va dire, peut-être, l'œuvre de Kupka ?
Alors, la réception de l'exposition à Paris a été excellente parce qu'il y a eu une presse très élogieuse et la réception du public aussi, elle était là. Je crois qu'effectivement, les gens ont pu découvrir, être intéressés par une œuvre qui était un nom symbolisant l'abstraction. Mais étant donné que l'exposition était très complète, on a aussi découvert l'œuvre de caricaturiste, par exemple, de Kupka au début du siècle, les aspects symbolistes de son œuvre. Disons, l'œuvre qui précède le passage à l'abstraction, qui était peut-être moins connue à Paris, et aller jusqu'au bout de sa carrière dans toutes ses différentes étapes. Et je crois que c'est ce qui a intéressé le public, de voir en fait tous les aspects et tous les bouleversements de son œuvre et aussi toute sa carrière d'illustrateur avec des dessins absolument magnifiques. Donc effectivement, ça a permis de faire mieux connaître l'œuvre d'un artiste qui est peut-être moins connu qu'un Kandinsky, par exemple, à Paris. Mais bon, visiblement, le bon accueil du public a été présent.
Puisque je vous ai à côté, Markéta Teinhardt, que nous dit un petit peu justement cette rétrospective de l'œuvre de Kupka ? Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler ?
Le public, déjà, le public français, déjà en 89, et maintenant, le public du Grand Palais, était assez étonné de commencer avec deux œuvres plus ou moins naturalistes, académiques, passées par le symbolisme, par une peinture à coloration symboliste, et par des dessins satiriques, pour arriver, enfin, de ce parcours à des œuvres qu'on peut vraiment appeler des œuvres abstraites, comme Kupka lui-même les a appelées. Parce qu'avec l'abstraction, c'est toujours un grand problème, mais disons, à commencer par des œuvres non figuratives, puis concret, et puis donc vraiment abstrait, selon Kupka. Voilà, donc c'est toujours un grand étonnement. Mais il faut voir aussi que Kupka est un artiste qui a vécu assez longtemps.
Qui il a eu le temps d'évoluer.
Et il a évolué dans son âge. Il a été toujours curieux, il s'est informé, il a eu une grande culture, il a regardé autour. Donc il s'est interrogé sur l'actualité artistique.
Quelles étaient justement ces sources, par exemple, d'inspiration, par exemple,
c'est déjà aussi un mot qui est. Non, mais il a travaillé surtout à Vienne lorsqu'il a fait ses études, où il a déjà travaillé dans le périmètre du symbolisme Certains chercheurs, entre autres Werner Hofmann, prétendent qu'il était vraiment l'un des précurseurs du symbolisme autrichien. Malheureusement, il n'y a pas d'œuvres conservées de cette période. On ne les connaît seulement de descriptions de salons de Kunstverein à Vienne. Ils sont disparus. D'accord. On ne les connaît pas. La seule chose qu'on connaît, c'est par exemple le tableau, un dessin ou une gouache. Pour le dernier rêve de Heinrich Heine Mouron, qui était un énorme tableau exposé au Kunstverein, mais surtout le tableau Quam ad causam sumus, on ne connaît pas, un grand tableau que Werner Hofmann met à l'égalité, un souriant peut-être, avec l'œuvre de Gauguin, donc dans un autre registre, par l'idée. Donc il arrive à Paris et voilà, il change l'attitude, mais pas tout à fait. Alors il reste toujours quelque chose de cette période viennoise, et notamment, je pense, ses sens pour la forme. Parce que le formalisme esthétique, on le sait très peu, et en fait une invention centro-européenne entre Prague et Vienne. Donc voilà, c'est, et on pourrait continuer alors ainsi de suite.
Ce qui est intéressant aussi chez Kupka, c'est un personnage très très important pour la Tchécoslovaquie. C'est un peu, alors c'est le symbole des liens franco-tchèques, mais ça va même au-delà, puisque d'une certaine manière, on peut dire qu'il a aussi contribué à sa manière à la création de la Tchécoslovaquie, dont on fête cette année le centenaire, puisqu'il a été lui-même, il a été dans les légions tchécoslovaques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, encore sur cette facette quand même particulière pour un artiste, on peut dire.
Oui, c'est un chapitre extrêmement, extrêmement intéressant. Kupka s'est engagé. On pourrait raconter longtemps sur ces sujets. Il y aura une exposition bientôt au musée des Kampa, spécialement consacrée donc à Kupka. Et pendant la Première Guerre mondiale, Kupka n'a pas seulement participé au combat après comme président de la colonie tchèque à Paris, proche de Masaryk, proche de Beneš, on le sait depuis déjà un moment, lorsqu'il était donc avant la guerre, lorsqu'il était libre penseur, comme Beneš par exemple aussi. Donc c'est Masaryk, il a connu Masaryk déjà d'avant la guerre. Donc, mais il a dessiné vraiment des uniformes, de médailles, de diplômes de l'armée tchécoslovaque. Et certains existent encore aujourd'hui, de projets de timbres. Il a participé aussi au concours pour le drapeau tchécoslovaque, qui n'a pas gagné, mais qu'il était vraiment, vraiment engagé. Mais après la guerre, il est rentré donc en fond, gradé. Il est entré donc avec l'armée tchécoslovaque à Prague. Il est resté un petit moment donc au ministère de la Défense. Mais il s'est dépêché de rentrer à Paris. Et à son ami, le peintre Wojciechina, il a écrit: alors fini la période où je travaillais comme un mézec. Nul! Il a commencé tout de suite à 19, il a commencé à participer à des salons et il a eu sa première exposition personnelle, etc. Mais à Paris, tout ça à Paris. Et enfin, donc, il a obtenu un poste de professeur à l'École de Beaux-Arts de Prague, mais professeur qui a pu enseigner le boursier tchèque, donc à Paris. Donc, il n'a pas eu à rester à Prague, ce qu'il ne voulait pas du tout.
J'aimerais juste peut-être 5 minutes m'attarder sur l'aspect des caricatures qu'il a faites, parce que c'est vrai qu'on le connaît en effet comme un pionnier de l'abstraction, mais c'est vraiment très intéressant de voir qu'il a eu cette facette-là justement de caricaturiste. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur les spécificités finalement de ces caricatures, peut-être sur leur humour?
Oui, il y a la qualité graphique d'ailleurs d'abord de ces caricatures. Ce sont vraiment de très beaux dessins. De très belles images, très fortes visuellement, avec de l'humour, mais aussi un engagement, alors évidemment pour des revues anarchistes, donc un engagement libertaire, anticapitaliste aujourd'hui, et puis anticlérical, contre l'armée, enfin contre tous les pouvoirs constitués, contre l'argent surtout, contre le pouvoir de l'argent, à travers des figures standards en quelque sorte de la caricature. Je crois qu'à Paris, ce qui a vraiment... Enfin, on voyait bien que les gens étaient très retenus par ces images très fortes, et puis qui renvoyaient aussi à l'idée de la liberté d'expression, la liberté incroyable qu'il pouvait y avoir encore au début du siècle, où il n'y avait pas de tabou. On voit bien dans ces caricatures où il y a une dénonciation, par exemple, des Turcs, et donc ça renvoyait une actualité très proche pour les Parisiens, bien sûr, celui des caricaturistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo a fait un numéro où on rendait hommage aux caricatures de Kupka. C'était formidable, d'ailleurs, parce qu'il y avait cette espèce de renvoi comme ça entre justement qui nous rappelait que la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental, et quelles que soient les opinions que peuvent défendre les artistes, ils sont toujours à défendre coûte que coûte. Il se trouve qu'en plus, dans l'œuvre de Kupka, c'est toujours un dessin absolument, absolument formidable. Alors après, on a pu dire qu'il avait fait ça pour vivre. Enfin, c'était en quelque sorte une production alimentaire. Mais enfin, c'est vrai. Ça n'empêche pas le talent d'une part. Et en plus, malgré tout, il y a une énorme production de Kupka. Donc ça correspondait vraiment à ses idées politiques de l'époque, qui ont pu évoluer. Mais c'est un homme, on le voit bien à travers son engagement dans les deux guerres mondiales, c'est un homme d'engagement. De
et moderne, on pourrait dire,
voilà,
finalement.
Absolument, que... absolument. C'est un artiste. Mais comme d'autres artistes de son temps, il s'est engagé. Et malgré son pacifisme, il s'est quand même engagé dans la Légion étrangère. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a aussi montré la preuve d'une sorte de courage, à la fois physique, intellectuel, moral. Enfin, bon, c'était un homme de conviction.